Alors bonsoir, vous me faites vraiment beaucoup d'honneur. C'est impressionnant. Bienvenue tout le monde, je suis très contente. Peut-être mon voisin, c'est vous, effectivement. Je suis venue de Québec pour vous parler ce soir. On va démarrer avec ce sujet. Donc, faut-il croire les études scientifiques ? C'est vrai, on entend beaucoup d'études scientifiques qui nous sont rapportées par les médias. On en lit beaucoup sur les médias sociaux, on en voit sur le web et on voit toutes sortes de choses dont des fois on ne sait pas trop quoi faire. Alors, vous avez sûrement remarqué qu'on voit notamment beaucoup d'études qui portent sur la santé, parce qu'évidemment, on le sait tous, hein, la santé, c'est quand même assez important. Donc, par exemple, on apprenait, il n'y a pas si longtemps que ça, que boire 5 tasses de café par jour, ça pourrait être bénéfique pour la santé. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, parce que j'adore le café. Le seul problème, c'est que pas très longtemps après, on lisait que selon une étude américaine, il ne fallait pas boire plus que 4 tasses de café par jour. Je suis encore correcte, mais c'est limite. Alors, est-ce qu'on nous raconte des bêtises ? Est-ce qu'il y a vraiment eu 2 études qui ont dit ça ? C'est assez mystérieux et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que quand on voit ça, on se dit, bah là, ils se moquent de nous, c'est n'importe quoi. Puis on lit aussi, et pas plus tard qu'il y a pas très longtemps dans la presse, hein, il y a à peu près 2 semaines, on a eu en une de la presse la publication d'une enquête sur la malhonnêteté de la science. Vous voyez les tricheurs de la science, les fraudes scientifiques, les faux journaux, les faux congrès. Bref, il semble y avoir des choses pas claires qui se magouillent du côté de la science. Donc là, si on met ces 2 éléments-là ensemble, on se dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui nous arrive dessus ? Donc, c'est ce dont on va parler ce soir, comment être capable de voir un peu au travers de ça, qu'est-ce qu'il faut en conclure, est-ce qu'il faut arrêter de croire complètement aux études scientifiques, ou sinon, comment on s'y prend. Alors, en général, toutes les histoires commencent par selon une étude. Et là, je vais vous inviter à faire une pause avant de lire la suite. Si jamais, je voudrais que ça soit un réflexe, si je retirais une chose ce soir que j'aimerais que vous reteniez de ce que je vais dire, c'est que quand vous lisez selon une étude, faites une pause. Et la pause, ça consiste à vous rappeler c'est quoi la science ? C'est quoi une étude ? Qu'est-ce que le résultat d'une étude nous dit ? Et comment est-ce qu'il nous parvient, ce résultat-là, parlons ? Et qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Et c'est qu'à l'issue de tout ça, finalement, qu'on va pouvoir peut-être voir si on a bien fait de croire ou pas et qu'est-ce que ça nous a apporté. Donc, on va commencer par la base. Puis vous verrez, tout à l'heure, je vais vous parler un peu de questions de contexte très important. Qu'est-ce que la science ? Alors, on pourrait en débattre pendant des heures et des heures. Je vais vous épargner ça parce que ça peut des fois devenir un peu compliqué. En résumé, la science, c'est une démarche qui est rigoureuse, qui permet d'acquérir la connaissance, comme vous le disiez tout à l'heure, de comprendre le monde dans lequel on vit, le monde physique, les humains, les animaux, tout notre environnement, les rapports sociaux, etc. Donc il y a autant des sciences. La science, c'est autant de la science très science naturelle que des sciences sociales, des sciences humaines. C'est un examen méthodique, hein. Il y a une méthode dans la science. On ne part pas n'importe comment dans la science du monde qui résiste aux critiques rationnelles. Ça aussi, c'est bien important. Ça fait partie de la définition de la science, hein. On ne peut pas regarder des conclusions d'une étude scientifique et en faire une critique qui serait basée sur notre opinion. Il faut que la critique soit elle-même basée sur de la science, soit rationnelle. La science, on peut la définir un peu par ce à quoi elle s'oppose. Hein, donc, elle s'oppose au dogme, à la croyance, à l'opinion. On a, par exemple, des croyances qui nous disent que, bon, il y a des gens qui croient que quand on donne des vaccins aux enfants, ça empêche leur système immunitaire de se développer. C'est une croyance. Il y a d'autres gens qui pensent que les blancs sont supérieurs aux noirs parce qu'ils sont plus intelligents, je ne sais pas quoi. On est rendu dans du dogmatisme complètement fou. Et puis, il y a des gens qui ont des opinions et qui sont souvent des gens, qui sont parfois des gens qui ont des traits au poste, qui croient par exemple que l'immigration va nous amener toutes sortes de problèmes dramatiques et qu'il faut vite construire des murs partout. Quand on dit rigueur, des fois, je voudrais vous ramener au sens du mot rigueur. Hein. La rigueur, ce n'est pas la rigueur comme l'austérité, comme on l'a entendu des fois quand on parle de finances publiques, hein, comme vous allez parler. La rigueur, on parle de rigueur parce que c'est vraiment une exigence intellectuelle de faire attention à bien tout prendre en compte. Donc, c'est rigoureux dans le sens strict. La méthode scientifique elle-même, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode qu'on pourrait considérer comme itérative. La science, ça procède par accumulation. Au départ, on va formuler une question précise, quelque chose qu'on veut essayer de comprendre sur le monde qui nous entoure. Et cette question-là, on va se la poser suite à des observations qu'on a faites ou alors parce qu'on a lu ce que les scientifiques qui ont travaillé avant, les scientifiques d'aujourd'hui, ont découvert et qu'on voudrait repartir de là pour aller un peu plus loin. Donc, on va faire ce premier travail de formuler une question. On va faire donc une analyse qui va nous amener à poser une hypothèse. Ensuite, on va chercher des moyens de tester notre hypothèse. Donc, on va concevoir une expérience dans laquelle on va faire varier, bouger des variables qu'on va manipuler avec des tests statistiques qui vont nous permettre de savoir si ce qu'on a observé, ça a du sens ou si c'est simplement du hasard et qu'on ne peut pas en conclure grand-chose. Ensuite, une fois qu'on va avoir donc un peu défini comment on va procéder, on va aller faire notre observation, récolter nos données, on va les analyser, on va les discuter, on va conclure et peu à peu, et on va recommencer ce travail-là à l'infini. Et c'est comme ça que les théories se construisent depuis que la science existe. Tout ça pour nous dire, ça c'est le contexte général de la science, les études là-dedans, qu'est-ce que c'est ? Alors les études, évidemment, il faut en faire beaucoup d'études différentes pour être capable de faire ce processus itératif de la science. Donc des études, il y en a à chaque étape. Il y a des études qui vont nous permettre de décrire en termes scientifiques ce qu'on observe, qui vont nous permettre donc d'émettre des hypothèses. Il y a des études qui vont nous servir à identifier des variables qu'on va ensuite... qui pourraient être significatives et qu'on va regarder pour voir si on est capable de faire des liens entre ces différentes variables-là. Est-ce qu'il y a un lien entre l'intelligence et la couleur de la peau ? On sait très bien aujourd'hui que non, hein, mais on ne l'a pas toujours su. Ensuite, on va expérimenter, on va trouver des moyens de confirmer ou d'infirmer nos hypothèses. Et une fois qu'on va avoir fait ce processus un certain nombre de fois et qu'on va avoir eu donc un certain nombre d'études qui vont avoir été faites, on va faire le point, on va regarder les études qu'on a récupérées, qui ont été faites, on va les réanalyser, les mettre ensemble et à partir de ça, construire la connaissance peu à peu. Donc vous voyez, la science, ça fonctionne comme ça, c'est vraiment une espèce d'empilement, d'accumulation d'études au fil des ans, des décennies, des siècles qui se complètent pour en arriver à des choses qui ne sont peut-être pas la vérité vraie, mais qui sont le moyen qu'on a le plus assuré d'arriver à des connaissances qui représentent réellement le monde tel qu'il est. Là où ça se complique, c'est que par exemple, si on revient à notre histoire de café, de combien on doit boire de café par jour pour rester en bonne santé, il va falloir choisir comment on va étudier cette question-là. Et ça veut dire qu'on va avoir un choix à faire entre beaucoup, beaucoup de choses. Si on parle du café, on va peut-être vouloir regarder si on donne de la caféine à des rats de laboratoire. Ça peut être un type d'étude. Donc, on va aussi peut-être vouloir regarder quel type de café on donne. On va peut-être vouloir regarder, faire remplir des questionnaires à des gens pour savoir quelle quantité de café est-ce qu'ils boivent. On va peut-être faire des analyses sanguines, rechercher dans le sang des personnes des marqueurs de maladie ou des marqueurs de métabolisme du café. On va faire des études qui vont des fois porter sur quelques mois. On va faire des études qui vont durer la vie entière des gens. On va suivre des gens pendant toute leur vie pour savoir, au bout du compte, après 3 ou 4 ou 5 tasses de café par jour, qu'est-ce qui leur arrive. Puis qu'est-ce qui leur arrive ? Ben, on va peut-être regarder combien parmi ces gens-là se sont retrouvés aux urgences. Puis on va peut-être regarder plutôt carrément ceux qui sont morts. Donc il y a aussi dans les variables, et il faut bien choisir nos variables, il faut choisir les paramètres. On va regarder aussi, évidemment, je vous ai mis une petite carte du monde, un des drapeaux, on va regarder, on va devoir circonscrire notre étude. Est-ce qu'on va regarder le monde entier ? Est-ce qu'on va regarder un pays ? Est-ce qu'on va regarder un groupe de gens en particulier ? Comment est-ce qu'ensuite on va avoir une fois qu'on va avoir récolté toutes nos données, comment est-ce qu'on va les analyser? Il y a aussi différentes manières de faire ça. Tout ça pour vous dire que des études, il en existe des paquets incroyables, juste quand on regarde les catégories d'études. Et ça veut dire que ça, à l'intérieur de chacune de ces catégories d'études, on peut étudier une variété de sujets absolument infinie. Donc, comment la science progresse à partir de ces études? Donc, je vous l'ai dit, une accumulation d'études de différents types qui vont nous permettre d'analyser un peu la question sous tous les angles. Si on s'intéresse à l'effet du café sur la santé, on va vouloir à la fois regarder la caféine, la consommation de café, des marqueurs, des gens qui sont morts, des gens qui sont atteints de maladies chroniques à plusieurs endroits dans le monde, pendant différents laps de temps, etc. Un élément absolument fondamental, je vous ai dit tout à l'heure, la science, elle se construit par accumulation de connaissances qui résistent à des critiques rationnelles. C'est que pour pouvoir avoir ces critiques rationnelles, il faut que la science soit les résultats des études, les études elles-mêmes, le protocole des études, soient publiés. Donc, les études doivent être publiées. Il y a des revues savantes qui ne font que ça, publier des études scientifiques, et qui ont comme caractéristique d'avoir des comités de lecture qui sont formés de quelques personnes qui donnent une première lecture des études que les chercheurs envoient. Et ce comité de lecture peut amener les chercheurs à réviser leur travail, peut carrément refuser l'étude s'ils la jugent non satisfaisante parce que pas assez... Pas bien faite ou avec des paramètres qui ne correspondent pas à ce qu'on attend. Donc, chacune de ces études-là, elle va compléter, affirmer, confirmer une hypothèse basée sur la conclusion des études précédentes. C'est pour ça qu'on va toujours avoir beaucoup de références dans des études aussi. Si jamais vous tombez sur une étude scientifique à un moment et qu'il n'y a pas de référence dedans, c'est mal. Il faut être clair. Une étude scientifique, c'est publié dans une revue avec un comité de lecture et ça contient des références parce que ce n'est pas isolé de l'ensemble des connaissances qui existent déjà. Et puis, il faut donc parfois très très longtemps et de temps en temps, on fait le point avec ce qu'on appelle des revues de la littérature scientifique où on regarde un peu toutes les études qui ont été publiées à date sur un sujet. Finalement, ça nous dit quoi? On va revenir là-dessus plus tard. Une étude parmi d'autres. Je ne vous demanderai pas de lire les petites lignes. Je veux juste que vous voyez le titre. C'est une étude où on a regardé le lien entre le risque de cancer colorectal et le fait de boire des infusions chaudes comme du thé, du café ou du maté. On a regardé dans cette étude-là en Uruguay. Bon, vous voyez que ça, c'est, je veux juste vous montrer qu'il s'en fait des études des fois auxquelles on pense. Pas nécessairement. Vous voyez, ça ne vous serait peut-être pas venu à l'esprit ce soir que j'allais vous parler d'une étude sur le café ou le maté en Uruguay. Dans cette étude-là, on a un descriptif de ce qu'on a fait, un background qui nous rappelle un peu où on est, l'état des connaissances. Donc là, ce que les chercheurs nous disent, c'est que on sait qu'il y a des chercheurs qui pensent qu'il y a peut-être un lien entre l'absorption de boissons chaudes et le risque de cancer colorectal. Ça n'a jamais été, pour le maté, les conclusions ne sont pas claires. Ça n'a jamais été fait en Uruguay, donc nous avons décidé de le faire. Ensuite, il y a une description de c'est quoi la recherche en elle-même que les gens ont fait. Donc là, ils nous disent qu'ils ont sélectionné des patients, un certain nombre qui avaient un cancer colorectal et un certain nombre qui n'en avaient pas, qui ont été invités à remplir des questionnaires. Donc, vous voyez, on voit là vraiment les objets de recherche, les variables qui ont été prises en compte. Et puis, on nous donne les conclusions, les résultats, avec une valeur statistique qui fait un lien entre la consommation de maté et le cancer colorectal. Et on nous donne ce qu'on en conclut, ce que finalement cette étude a apporté aux connaissances. Alors ça, vous vous dites, une fois qu'on a fait cette étude-là, on est tranquille avec le sujet. Pas tout à fait, parce que avec les mêmes variables, on peut faire une étude aussi complètement différente de celle-là. Ça serait une étude complètement différente de ce qu'on vient de voir. Puis là, je vais essayer de vous faire travailler un peu, vous faire deviner pourquoi. Une étude de cohorte, ça serait, mettons, on veut suivre Est-ce que le café donne telle ou telle maladie? On prendrait deux groupes de personnes. Un groupe de personnes qui boit 3 tasses de café par jour, ou 4 ou 5. Un autre groupe de personnes qui n'en boit pas autant. On les suit pendant 30, 40 ans, le temps que leur éventuelle maladie se développe. Et on regarde dans chaque groupe combien sont morts, ou combien ont eu des cancers colorectaux, ou combien ont eu des maladies cardiovasculaires. Voyez-vous la différence avec l'étude précédente? Dans l'étude précédente, ce n'est pas ça qu'on a fait. C'est une autre étude et ça se ressemble beaucoup. Dans l'étude précédente, ce qu'on a fait, c'est une étude rétrospective. C'est complètement autre chose. On n'a pas attendu 30 ans, on n'a pas pris deux groupes. On a pris des gens aujourd'hui qui avaient une maladie et des gens qui n'avaient pas cette maladie, et on est remonté dans le temps en leur posant des questions sur leur consommation de café pour essayer de voir qui avait développé la maladie, qui ne l'avait pas, et qui avait été exposé, donc qui avait pris beaucoup de café et qui n'avait pas pris beaucoup de café. Puis là, on se retrouve avec un certain nombre de statistiques. Ça, c'est ce qu'on appelle une étude cas témoin, qui est rétrospective. On en voit beaucoup dans le domaine de la santé parce que c'est adapté, c'est très bien adapté pour des maladies qui mettent longtemps à apparaître. C'est beaucoup moins cher de faire ça que de prendre des gens puis de les suivre pendant 40 ans ou 30 ans pour voir ce qui va leur arriver. Vous voyez qu'on a exactement les mêmes variables, mais on a un deuxième type d'étude. Sauf que ce deuxième type d'étude-là, il impose aussi certaines contraintes. D'abord, il y a ce qu'on appelle le biais de mémorisation. Est-ce que vous vous souvenez, pour les gens parmi vous qui ont un certain âge, il y a 35 ans, vous buviez combien de tasses de café par jour? Moi, je ne sais pas. Et ensuite, un biais de sélection possible des témoins. On a pris des gens qui étaient à l'hôpital, on a pris d'autres gens, mais est-ce que les autres gens qu'on a pris sont vraiment comparables à ceux qui sont à l'hôpital? Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans leur vie qui a fait en sorte qu'ils ont été épargnés? On ne le sait pas. Autre chose qui est fondamentale et qui, là, par contre, vaut pour ces deux types d'études-là, quand bien même on trouverait un lien entre la consommation de boissons chaudes ou de café et le risque de cancer, est-ce que c'est vraiment un lien de cause à effet ou est-ce que c'est une association? On ne le sait pas. Ça ne veut pas dire que ces études-là, il ne faut pas les croire puis il faut les jeter à la poubelle. Ce que ça veut dire, c'est que ces études-là, il faut leur faire dire ce qu'elles veulent dire. C'est-à-dire que si on trouve qu'il y a une association, ça nous donne un indice. Et vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, la science, ça procède par accumulation. Donc, si on a un indice, ben, c'est un indice de plus. Peut-être que si tout nous dit qu'il n'y a aucun lien entre le cancer et entre le café et la longévité, mais il y a une étude qui a trouvé une association, ben, on va se dire bon, ben, c'était une association complètement au hasard. Et ça arrive, il y a beaucoup de choses qui sont associées. La dernière association que j'ai lue qui m'a vraiment, j'avoue, beaucoup fait rire, c'était les épidémies de gastro-entérite et les places en France qui ont voté pour le Fonds national. Bon. Avouez que je ne suis pas sûre qu'il y ait un lien de cause à effet. Quand on veut trouver un lien de cause à effet, on fait d'autres études. On va faire des études expérimentales qui nous permettent de trouver une relation causale entre deux variables. Donc, ce que ça veut dire, une relation causale entre deux variables, c'est que si, par exemple, le tabac implique le cancer, le non-tabac implique le non-cancer. Alors, on voit évidemment que pourquoi c'est compliqué les études dans le domaine de la santé, c'est qu'évidemment, il n'y a pas juste le tabac qui cause le cancer. Le cancer, ça peut être causé par beaucoup d'autres choses. Et le lien n'est pas toujours aussi direct que ça. Les problèmes que ça pose d'essayer de faire des études expérimentales avec ce genre de sujet, d'abord, c'est impossible de faire l'expérience deux fois. Si je prends un groupe de personnes, je ne peux pas les faire revivre à la fin de leur vie pour voir si jamais ils n'avaient pas fumé, est-ce qu'ils ne seraient pas morts ou est-ce qu'ils seraient morts plus tard. L'autre chose, c'est que ça pose des questions d'éthique. Je ne peux pas dire aux gens, fumez 2 paquets de cigarettes par jour, puis on va voir comment vous allez mourir plus vite que les autres. Ça serait un peu délicat. Donc, ça nous impose des limites dans ce qu'on est capable, de ce que les chercheurs sont capables de faire pour aborder des sujets. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup d'études différentes aussi, parce qu'on ne peut pas toujours étudier les choses comme on voudrait le faire pour bien d'autres considérations. Ça, ce que ça nous impose, c'est qu'il va falloir être capable de comparer, si on veut faire ce genre d'études, deux groupes de personnes. Et là, vous allez voir que là, ça se complique parce qu'il y a toutes sortes de manières de faire deux groupes. Par contre, quand on étudie des processus biologiques, physiques ou chimiques qui vont nous permettre d'aller regarder, par exemple, des marqueurs dans le sang de maladies, là, on va pouvoir refaire des études plein de fois, avec les mêmes cellules à la limite. Les sciences physiques, les sciences dures ont beaucoup moins besoin, ont beaucoup plus de maîtrise, entre guillemets, sur leurs paramètres. Et c'est pour ça qu'elles donnent souvent des résultats beaucoup plus, qui nécessitent beaucoup moins d'études différentes pour arriver à la compréhension du phénomène. Comment on fait deux groupes équivalents? On l'a vu tout à l'heure, hein, un groupe avec un groupe témoin, on va randomiser. C'est une manière de faire des études aussi. Vous voyez, quand on veut essayer d'étudier quelque chose, c'est compliqué, hein, de le faire comme il faut. On va randomiser les individus pour former deux groupes qui sont absolument semblables. Comment on fait ça? On prend un grand groupe d'individus et puis on forme un groupe absolument homogène et ensuite on répartit aléatoirement les gens, on tire au hasard les gens et on les met dans le groupe contrôle ou dans le groupe témoin ou dans le groupe d'études. Donc, il y a plusieurs méthodes aussi de randomisation. Là encore, ce que je veux que vous compreniez avec ça, c'est que même si on est toujours exactement sur le même sujet, deux études qui sont en apparence très proches l'une de l'autre, si on n'a pas utilisé la même méthode de randomisation, elles peuvent amener des résultats différents. C'est pour ça qu'on peut avoir des fois des choses qui ont l'air méchamment semblables, mais qui ne le sont pas. Alors, on va en venir ensuite à pourquoi est-ce que, dans le journal, on a l'impression qu'on a fait exactement la même chose. Autre type d'étude sur lequel je vais passer brièvement, parce que je suis sûre que vous en avez déjà tous entendu parler quand on parle de santé humaine, les essais cliniques. Il y a toutes sortes d'essais cliniques à toutes sortes de niveaux. Il y a des essais précliniques qui sont faits au laboratoire, ce qu'on appelle les essais de phase 1. Donc là, on est dans des catégories, des types d'études bien particuliers dans lesquelles on va regarder juste est-ce que le médicament qu'on teste, par exemple, a des effets secondaires, mais on ne va pas le donner à des gens qui sont malades, on va le donner à des gens qui sont en bonne santé. Les études de phase 2, on va regarder quelques centaines de malades et là, on va voir c'est quoi le dosage optimal et on va continuer à regarder un peu les effets secondaires. Ensuite, on va avoir les études où on va vraiment comparer le nouveau médicament finalement qu'on veut obtenir ou l'intervention qu'on veut faire à un placebo ou à un autre traitement. Et puis, pour les médicaments, on continue aussi à faire des études, fort heureusement, post-commercialisation, parce que généralement, ce dont on s'aperçoit aussi dans ce domaine-là, c'est qu'on a beau avoir étudié un médicament des fois sur des milliers de gens, ben, quand on le donne à des millions de gens, des fois, on trouve des choses qu'on n'avait pas vues. Et ça arrive souvent. Et ce n'est pas parce qu'on a mal fait l'étude de départ. C'est juste parce qu'on ne peut pas essayer un médicament sur des millions de gens avant de le donner à des millions de gens. Comprenez qu'on est un peu obligé. Mais vous voyez qu'il peut y avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de types d'études différentes. Je vous ai parlé de publications scientifiques. Ça, c'est une chose qui distingue quelque chose qui, d'après moi, est scientifique de quelque chose qui ne l'est pas. La publication, une étude interne qui n'est pas publiée, qui n'est pas publique, un rapport, un guide clinique, tout ça, ce ne sont pas des études scientifiques. La révision par les pairs, comme je vous le disais tout à l'heure, est super importante. La science est dotée aussi d'un moyen qui permet un peu d'évaluer, non pas les études, mais les journaux dans lesquels elles sont publiées, qui est un moyen qui n'est pas parfait, qui est un facteur qu'on appelle le facteur d'impact, qui permet de savoir un peu dans un journal, comme par exemple si vous prenez Nature ou Science, les gens vont calculer le facteur d'impact de ce journal-là, qui va nous dire combien de fois, en moyenne, un article qui est publié dans Nature est cité comme référence par d'autres articles. Vous voyez, on est toujours dans le processus d'accumulation des preuves par lequel procède la science. Alors, là où les choses commencent à se compliquer, c'est que si vous regardez le Journal Citation Reports, qui est l'organisme qui publie ces facteurs d'impact, ben, il évalue 11 365 revues. Revues, hein, pas articles scientifiques, pas études, 11 365 revues, et il les divise en 4 catégories, 4 quartiles, hein, exactement comme les courbes des croissances des enfants. Il y en a il y a le Q1, c'est le top, c'est celles qui sont qui ont les plus hauts facteurs d'impact, c'est-à-dire qui publient en moyenne des études qui sont beaucoup citées dans la littérature scientifique. Et puis le Q4, ça c'est les plus mauvaises, ça veut dire que se retrouvent dans ces journaux-là des études qui généralement n'ont pas réussi, que les chercheurs n'ont pas réussi à publier dans le Q3 ou Q2 ou Q1. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. 11 365 revues, c'est beaucoup. Et c'est rien par rapport à l'ensemble de toutes les revues qui publient des études. Parce que la science en pratique, c'est un monstre. Et c'est là où on voit que ça peut commencer à se compliquer sérieusement. Juste pour vous rapporter quelques chiffres, en 2013, il y avait 7,8 millions de chercheurs dans le monde. Ces 7,8 millions de chercheurs, ils publient à peu près par année 2,5 millions d'études. Donc vous voyez, quand on vous en rapporte deux, c'est un tout petit bout de l'histoire de la science qu'on vous raconte. Au Québec, juste, quand on disait il y a de la fraude, si vous avez lu cet article de la presse, on vous dit bon, il y a quelques dizaines de chercheurs qui publient dans des revues qui ne sont pas correctes. Mais il faut savoir qu'au Québec, seulement, il y a 10 000 professeurs d'université, que chaque année, on donne 1 800 doctorats et 10 000 maîtrises ou 12 000 maîtrises. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de monde qui publie beaucoup d'études. Il y a à peu près 28 000 revues savantes en anglais publiées dans le monde. PubMed, qui est une base de données, parce que les études sont répertoriées dans des bases de données dans lesquelles on peut faire toutes sortes de recherches. PubMed répertorie 27 millions de références. Une autre base de données qui répertorie beaucoup, beaucoup d'études, c'est Web of Science, qui en répertorie 90 millions. Voyez que tout ça fait en sorte qu'il y a vraiment énormément d'études différentes. C'est ça, la science. Donc, quand on vous dit selon une étude, là, c'est le mot « une » qui est important. Ce n'est pas le mot « étude ». C'est que vous avez juste un tout petit bout de l'histoire. Puis essayer de trouver la conclusion de l'histoire au complet, c'est comme si je vous montre une image de Blade Runner 2049 qui sort bientôt. Puis je vous dis, c'est ça l'histoire. Il va me manquer un gros bout. La science, elle a tellement pris d'ampleur, on le sait, on parle de société du savoir, il y a de plus en plus de chercheurs partout dans le monde, mais la science, elle a aussi, elle n'est pas déconnectée du reste du monde, dès qu'elle est un peu victime de son succès, on pourrait dire. La science, c'est un monde dans lequel les intérêts financiers sont absolument énormes, à la fois parce qu'il y a des études qui coûtent très cher à faire. Juste trouver le fameux boson de Higgs, si on ne l'a pas trouvé avant, c'est parce qu'on a dépensé des centaines de millions et probablement même des milliards pour en arriver à cette expérience-là, toute simple, qu'on ne va pas reproduire 50 000 fois vu le prix qu'elle a coûté. Il y a aussi des intérêts financiers énormes parce que ces études, toute cette science, elle a des applications, elle a des gens qui attendent d'avoir des applications, que ce soit pour appliquer des résultats en sciences sociales quand on parle de quelle méthode on devrait utiliser dans les écoles, quand on parle de médicaments, tout ça, c'est des choses qui ont des impacts absolument énormes. Donc, les intérêts financiers associés aux résultats de la science sont énormes. La compétition entre les chercheurs, elle aussi, elle est énorme et elle est d'autant plus énorme que l'État reste le principal bailleur de fonds de la recherche qui se fait dans les universités et qui est publié, parce qu'encore une fois, la recherche qui n'est pas publiée ne peut pas être critiqué et n'est donc pas complètement de la science dans le sens où il manque un morceau de l'histoire. Donc la compétition entre les chercheurs pour les subventions est de plus en plus importante parce que le nombre de chercheurs augmente plus vite que le nombre de subventions. Il y a aussi une mode, entre guillemets, dans les dernières années. On veut encourager les meilleurs chercheurs. Donc même si on augmente l'argent, on va donner des plus grosses bourses et ça fait en sorte qu'au final, on va en donner moins à moins de personnes différentes. La publication, le fait de publier, reste le principal étalon aussi qui permet aux chercheurs de se distinguer entre eux, de progresser dans leur carrière, d'avoir des dossiers étoffés pour demander des subventions ou pour postuler, pour avoir, quand c'est des étudiants chercheurs ou de jeunes chercheurs, un poste dans une université. Les revues savantes elles-mêmes sont aussi en compétition. Vous avez vu le nombre qui existe, ça fait beaucoup. Chaque revue veut essayer de se démarquer. Ce n'est pas des sociétés à but non lucratif pour la plupart. C'est des entreprises commerciales aussi qui gagnent de l'argent en publiant. Il y a de la compétition, évidemment, aussi entre universités. Tout le monde veut attirer les meilleurs étudiants, attirer les meilleurs chercheurs. Et pour attirer les meilleurs chercheurs, il faut donner l'impression qu'on est bon. Et qu'on fait beaucoup de recherches. Il y a aussi l'explosion dans les dernières années de la communication scientifique, parce qu'avec tous ces enjeux-là, communiquer les résultats de la science est devenu de plus en plus important, quitte à les communiquer des fois tout croche. Ça fait en sorte que ce qu'on réalise beaucoup en ce moment, et ça ne veut pas dire qu'il y en a plus qu'avant, j'insiste là-dessus, c'est qu'on voit un certain nombre d'études qui sont truqués, plagiés, bâclés. On voit des chercheurs qui tournent les coins ronds, qui oublient un peu des données qui ne rentraient pas dans le graphique. Pour toutes sortes de raisons, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'on a pris conscience que c'était un problème pour la science, parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on a des études qui sont mal faites ou qui sont frauduleuses, un, c'est un gaspillage d'argent public, puis deux, non seulement on ne fait pas avancer la science, mais des fois, on la fait reculer. Comme ça a été le cas, par exemple, avec ces histoires de liens entre le vaccin, entre les vaccins et l'autisme, où on a fait reculer la recherche sur l'autisme, on a bloqué la recherche sur l'autisme pendant des années à cause de publications qui étaient frauduleuses. Dans l'ensemble, quand même, il faut être honnête. Les chercheurs, c'est des gens qui sont globalement très respectables et qui travaillent très bien. Ça n'empêche que même quand ils travaillent très bien, ils ont des biais inconscients, et ça, ça a été démontré. Les chercheurs influencent involontairement le résultat de leurs recherches. C'est des humains, ils ont toujours un biais de confirmation qui va faire en sorte que, par exemple, leur perception de l'état des connaissances va être un peu biaisée par ce qu'ils pensent. C'est pour ça qu'on a inventé la méthode scientifique, c'est pour essayer de se défaire de cette opinion qui est dans la nature humaine. Les chercheurs étant des humains, ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir des opinions, même quand ils essayent de faire parler les faits. Donc, des fois, la manière dont ils construisent leurs expériences, le design de leurs expériences, l'interprétation des résultats, peuvent faire en sorte qu'il y a des biais inconscients qui biaisent ou qui faussent un peu les résultats des études. Il y a aussi, évidemment, des erreurs. Je vous ai dit tout à l'heure un peu l'ampleur qu'avait pris le monde de la science aujourd'hui. Il n'y a plus un chercheur qui est capable de suivre ce qui se passe dans son domaine aujourd'hui complètement. C'est trop gros, il y a trop de monde. Ce n'est pas grave, mais il faut faire attention. Donc, il y a des données à tous les niveaux. Il y a des erreurs dans les hypothèses de départ. Il y a aussi des erreurs dans l'interprétation des données. De plus en plus, on a des ordinateurs, on est content, on n'est plus obligé de faire des calculs sur le coin d'une table. Donc, on peut rentrer des tonnes et des tonnes et des tonnes de données, mais on en fait quoi de ces données-là? Comment on les analyse? Avec quelle méthode statistique? La statistique, c'est une science en elle-même excessivement complexe que tous les chercheurs en biologie moléculaire, histoire, mathématiques ne maîtrisent pas nécessairement tous sur le bout des doigts. Donc, il y a des erreurs. Et il y a notamment eu on a beaucoup entendu parler ces dernières années, de débats autour de la valeur P, qui est une manière de valider que la probabilité d'un lien qu'on obtient entre deux variables n'est pas due au hasard, parce que le hasard peut toujours exister. Donc, quand est-ce qu'on sait que deux valeurs sont statistiquement liées de manière significative? Ce n'est pas si évidemment que ça à montrer. Heureusement, la science a aussi des méthodes pour éliminer les erreurs qui se produisent. Elle a des méthodes pour éliminer des erreurs de deux manières. La première, c'est la rétraction des études. Ça arrive que des études soient retirées de la littérature scientifique quand on s'est aperçu qu'elles étaient fausses. Fausses dans le sens qu'il y avait vraiment de grosses lacunes dans ces études-là. Il y a aussi des fraudes. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette étude sur les liens entre l'autisme et les vaccins. Cette étude initiale qui a été publiée pourtant dans un très bon journal qui s'appelle The Lancet. Vous voyez qu'elle a été retirée en 2010. Ça a pris quand même assez longtemps avant qu'elle soit retirée. Ça a été long. Mais avant qu'elle soit retirée, elle a été citée par 983 autres études. Vous voyez le mal qui ont elles-mêmes été citées probablement par plein d'autres études aussi. Donc, vous voyez comment une seule étude, des fois, peut faire très mal. Dans les choses aussi qui font en sorte que, des fois, ce qu'on lit dans les journaux peut nous paraître bien bizarre, c'est que, je vous parlais tout à l'heure de la communication de la science, il y a de plus en plus de marketing trompeur en science. Il y a des universités, des centres de recherche qui veulent nous faire croire que chaque étude est révolutionnaire. On va lire, par exemple, vous voyez, ce communiqué de presse qui est très récent, comme il s'en publie des milliers par jour. Une nouvelle étude offre une nouvelle stratégie de traitement pour les patients avec le cancer du côlon. Ouais. Toutes les gens qui ont quelqu'un qui a cette maladie-là dans leur famille vont se garrocher sur cette étude-là pour la lire. Effectivement, c'est très intéressant pour le progrès des connaissances, ça donne de l'espoir. Mais il faut bien réaliser que les chercheurs ont juste découvert un petit bout d'une nouvelle protéine à quelque part et qu'on est encore loin d'avoir un médicament. Donc il faut faire attention que, mais évidemment, on veut nous attirer l'attention. Si le titre de ce communiqué-là avait été « On a découvert un tout petit bout de protéine auquel on n'avait pas pensé », qui aurait lu ça ? Le marketing, des fois, peut être tellement trompeur, le marketing de la science, que moi, il y a quelque chose qui m'allume tous mes drapeaux rouges comme une journaliste scientifique, c'est quand on nous parle d'études qui n'ont pas encore été publiées. Et c'est fréquent. Et là, vous allez voir que même des fois, c'est des gros noms, des grands noms, des gens réputés. Par exemple, il y a quelques années, on nous a annoncé, en 2009, si je ne me trompe pas, avoir trouvé le chaînon manquant dans l'histoire de l'évolution de l'humanité. La BBC a préparé son documentaire narré par David Attenborough. Donc là, on est vraiment dans le top. Là. On s'est aperçu que ce n'était pas pantoute un chaînon manquant. Il n'était même pas lié aux humains. Ça a pris quelques années avant qu'on s'en aperçoive et ça a pris quelques temps entre ce documentaire et tout le tapage médiatique qu'on a fait autour de ça et le moment où l'étude a été publiée dans une revue savante où là, d'autres chercheurs ont commencé à mettre le nez dedans et à dire « Mais attendez, là, ce n'est pas vraiment ça. Là, vous vous êtes trompés. » Même chose avec, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de la NASA qui avait découvert des bactéries qui se nourrissaient uniquement d'arsenic. On nous avait dit qu'on allait étendre la définition de la vie. Il existait une autre forme de vie. On en avait la preuve. La NASA le disait. Mais la NASA ne l'avait pas publié. Et quand la NASA l'a publié, la NASA s'était trompée. Accessoirement, la NASA est assez bonne pour faire ce genre de trucs. Ce n'est pas la seule fois où ils ont fait ce genre de choses. Évidemment, il faut aussi des fois un peu jouer du marketing pour séduire les lecteurs, et c'est bien normal. S'il y a quelque chose qui va vous faire en sorte que vous allez lire cet article qui va dire « une étude a tout découvert que », c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui vous ait allumé là-dedans. Alors des fois, on gonfle un peu l'histoire. Einstein s'est-il trompé ? Ça serait donc tellement trippant que Einstein se soit trompé. Pour toutes les nuls en science, là, ça serait vraiment la revanche ultime. Vous voyez, l'hebdomadaire, je l'ai pris dans l'hebdomadaire Marianne, mais plein d'autres médias ont fait ça. C'était une expérience de chercheurs du CNRS. Alors là, Marianne nous dit, des chercheurs du CNRS ont affirmé récemment que des particules sont capables de voyager plus vite que la lumière. Et c'était une entrevue où on demandait à un physicien, est-ce que ça vous paraît plausible ? Alors, là, évidemment, on se dit, et évidemment, après quelques temps, on s'est aperçu que non. Et les particules n'avaient pas voyagé plus vite que la lumière. Donc, désolé de vous dire que pour l'instant, Einstein ne s'est toujours pas trompé. En tout cas, pas là-dessus, c'est certain. Et au passage, les chercheurs du CNRS n'affirmaient pas que les particules allaient plus vite que la lumière. Ce qu'ils affirmaient, c'est qu'ils avaient mesuré dans une de leurs expériences une vitesse de particules qui, bizarrement, très, très, très bizarrement, et c'était vraiment souligné à gros traits dans leur communiqué, semblait être allée plus vite que la lumière, ce qui était hautement improbable. Mais ils nous prévenaient qu'ils avaient beau avoir cherché où était l'erreur, ils ne l'avaient pas trouvée. Et il a fallu un certain temps avant qu'on la trouve, et c'était un problème dans des ventilateurs, des ordinateurs qui ont calculé les données. C'est un peu plate, mais c'est ça qui a fait en sorte que ça nous a permis quand même de parler de physique fondamentale en une des journaux. Alors oui, c'était du marketing un peu trompeur, mais cette fois-ci, entre guillemets, pour le bénéfice de la science, qui des fois a un petit peu du mal. Hein. Je ne sais pas si vous lisez souvent dans les grands médias des histoires de physique des particules, mais c'est quand même assez rare. Juste pour vous donner une idée, pour revenir à mon histoire de science et de café tout à l'heure, hein, Web of Science, qui est la base de données dont je vous parlais tout à l'heure, si vous tapez juste comme mot-clé « cancer et café », vous arrivez à 437 études. Vous voyez le problème du journaliste qui doit écrire un article sur est-ce que cette nouvelle étude qui vient de sortir, qui nous dit que on peut boire 3 tasses de café par jour parce que ça ne donne pas de cancer. Ben là, s'il veut savoir si c'est vrai, est-ce qu'il va vraiment devoir se taper ces 437 études-là avant son bouclage qui va être dans la demi-heure qui suit ? Ça va être difficile. Heureusement, et les chercheurs ne sont pas beaucoup plus capables que les journalistes de lire ces 473 études pour en sortir quelque chose, sauf ceux qui s'y consacrent vraiment et qui s'en font une mission en compilant ces études-là. Donc, il y a aussi une manière, on en entend de plus en plus parler, parce qu'on le dit de plus en plus aux journalistes, ne rapportez pas des études toutes seules, mais rapportez des méta-analyses ou des compilations d'études, parce qu'évidemment, là, au lieu de vous donner juste une image de l'histoire, on va vous donner une espèce de petit bout de bande-annonce de l'histoire. Donc déjà, ça va être peut-être plus près de l'histoire au complet, parce qu'on va avoir accumulé plusieurs études. Donc, les revues de littérature scientifique, comment ça fonctionne, hein, les chercheurs regardent dans la liste des 473 études sur le café et le cancer, essayent de comprendre c'est quoi qui s'est passé, qu'est-ce que c'est ces études-là, quelles variables est-ce qu'on a regardées, quel type d'études c'était, est-ce que c'était du prospectif, du rétrospectif, est-ce que c'était avec des humains, est-ce que c'était, etc., etc. Et on peut comme ça arriver à avoir des tendances intéressantes qui tendent à nous poussent dans la direction de oui, il y a un lien, oui, le café contribue au cancer ou non, il ne contribue pas. Donc, ça peut révéler des tendances intéressantes. Il faut quand même faire attention qu'il y a toujours aussi des biais de sélection. Est-ce que les études, on a regardé, est-ce que les gens qui ont fait la revue ont regardé l'ensemble des études ou est-ce qu'ils ont regardé juste celles publiées en anglais dans les 10 dernières années ? Il y a toutes sortes de biais qui peuvent se mettre là-dedans. Quand vous entendez le mot méta-analyse, ça aussi c'est un autre type d'études qu'on lit dans les journaux et qu'on entend de plus en plus. Une méta-analyse, c'est un ensemble d'études sur lesquelles on a refait une analyse statistique pour être capable de nous sortir au final un chiffre. Hein, finalement, ça revient à ça. Tout ça, ça peut sembler un peu compliqué, mais c'est vraiment comme ça que se construit la science. Et c'est pour ça que c'est très difficile de dire est-ce qu'on peut croire à une étude scientifique ? C'est juste un petit bout de l'histoire. Ce qu'il y a de plus en plus fiable, et ce qu'on a de plus fiable aujourd'hui, ça va être ce qu'on appelle des revues systématiques de la littérature scientifique. Il y en a pas beaucoup, parce que ça coûte très cher à faire, parce que c'est très long, parce qu'il faut tout ramasser les études, il faut tout aller les chercher, toutes les regarder par une par une. C'est un travail de moine. Dans le domaine de la santé, il y a un réseau mondial de chercheurs, parce qu'il n'y a pas personne qui est capable de faire ça tout seul dans son coin, qui s'appelle la collaboration Cochrane, qui fait exactement ça et qui donne dans ses avis, et certains de ses avis tiennent en 10 lignes, l'état des connaissances sur un sujet. Alors souvent, on leur reproche qu'ils arrivent très longtemps après la bataille. Ça ne fait pas si longtemps que la collaboration Cochrane nous a dit que la vitamine C ne combattait pas le rhume, sauf qu'il y a encore beaucoup de gens qui le croient. Donc, c'était peut-être pas grave si c'est arrivé des années après les recherches, parce que finalement, la recherche, elle n'est toujours pas passée dans la population. Ce vers quoi je veux vous amener avec ça, toujours pour rester dans le domaine de la santé un petit peu, quand on parle des études, c'est pas grave qu'il y en ait qui soient, entre guillemets, moins fiables que d'autres ou qui nous disent qu'un tout petit bout de l'histoire, parce que c'est à peu près jamais qu'on va appliquer les connaissances en se basant sur une seule étude. Donc, par exemple, dans le domaine de la médecine, il y a des niveaux de preuve qu'on considère hein, avant de décider d'approuver un médicament ou de recommander aux médecins d'utiliser telle à telle approche ou de faire tel type de chirurgie. Donc, il y a des niveaux de preuves, hein, preuves scientifiques établies. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qu'on a de plus costaud. Donc, ça va être des essais randomisés, comparatifs, randomisés de forte puissance. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde, on a randomisé, on a comparé. Ça va être des méta-analyses d'essais comparatifs randomisés, peut-être qu'il y avait moins de monde que ça. Forte puissance, ça veut dire juste qu'il y a beaucoup de monde. Quand il y a une présomption scientifique en médecine, c'est quand on a juste des essais comparatifs randomisés de faible puissance. On a juste regardé, par exemple, quelques centaines de personnes au lieu de regarder quelques centaines ou quelques dizaines de milliers de personnes. Et puis, il y a ce que les médecins considèrent comme étant un faible niveau de preuve scientifique. Et là-dedans, vous voyez qu'il y a les études cas témoins, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, quand le journal nous dit boire 3 cafés par jour est bénéfique ou mauvais pour la santé, ben on est clairement dans la catégorie faible niveau de preuve scientifique. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Ça, ce que ça nous dit, c'est que oui, c'est intéressant de savoir ça, mais c'est intéressant de le savoir pour la compréhension de l'application des connaissances, pas pour l'appliquer à soi, pas pour déterminer combien de tasses de café on va boire par jour. Puis ça, c'est l'erreur que font les médias beaucoup quand ils touchent des domaines où on est dans de l'humain ou dans des sciences sociales ou dans de l'environnement. On nous fait sauter aux conclusions de la recherche beaucoup, beaucoup trop vite. Mais alors, des charges pour les journalistes scientifiques, couvrir la science, c'est quand même tout un défi. Il faut être honnête. Pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer, hein, le nombre d'études, la complexité des études, on n'est pas des statisticiens, on n'est pas capable d'évaluer seul à fond la validité de chacune des études. C'est très difficile tout ça. En plus, vous le savez certainement, les journalistes, en départ, hein, quand on fait ces études, il n'y a pas beaucoup de gens qui commencent par étudier en science, qui deviennent vraiment des... qui acquièrent une bonne culture scientifique, qui comprennent la méthode scientifique, puis ensuite qui décident de devenir journaliste. Il n'y en a pas beaucoup. Les journalistes, la plupart des journalistes qui travaillent dans les médias aujourd'hui étaient plutôt des gens qui, à l'école, n'aimaient pas nécessairement beaucoup la science. Et c'est des fois très dur de les réconcilier avec la science. La science et les médias, ça marche aussi sur des échelles de temps différentes. Je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas rapporter les résultats d'une étude. Peut-être qu'on devrait se contenter de rapporter les résultats de méta-analyse, mais on aime ça savoir des nouveautés. Mais la nouveauté en science, c'est quelque chose de très, très, très relatif et qui prend du temps. Les journalistes, on croule sous le poids des relations publiques. On reçoit par jour des centaines de communiqués de presse de découvertes révolutionnaires qui viennent des universités notamment. On est aussi pris avec le fait qu'il y a des sujets qui sont vendeurs ou pas, et on est pris avec la culture scientifique de la population. On ne peut pas parler de toutes les études qui sont intéressantes parce que simplement nos patrons n'en veulent pas, parce que ça n'intéresse pas les gens, ou en tout cas parce que nos patrons ont la perception que ça n'intéresse pas les gens. Après, on s'aperçoit que quand on essaye, et oui, j'ai déjà écrit un dossier sur la physique des particules dans l'actualité, et ça a très bien marché. Mais ça prend des patrons qui sont très ouverts à la science et ce n'est pas encore le cas de tout le monde. Et finalement, ben vous le savez probablement parce que vous avez dû en entendre parler, dans les médias, on vit actuellement une crise qui n'est pas une crise du contenu des médias, mais qui est une crise du modèle d'affaires des médias qui a toujours été financé par la publicité. Publicité qui est aujourd'hui complètement accaparée par Google et Facebook, en gros, qui fait en sorte que les médias n'ont pas beaucoup d'argent et de moins en moins. Et que pour faire tout ce travail d'analyse scientifique, ça prend quand même un petit peu de temps. C'est quand même un petit peu plus compliqué que de couvrir des conférences de presse de politiciens. Donc, c'est un problème. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on lit des erreurs sur la science dans les médias, on en lit plein. Mais là où je voudrais vous amener, c'est qu'il n'y a pas que les médias qui se trompent en matière de science. Parce que la science sur le web, vous avez parlé tout à l'heure des fake news, des faits alternatifs, etc. La science, ça fait tellement longtemps, et particulièrement dans le domaine de la santé, qu'on a des fake news. C'est hallucinant. Je pense qu'on n'a vraiment pas attendu Donald Trump pour avoir des fake news. Donc, il y en a beaucoup. Les pièges à clics qu'on va retrouver, et que même des gens qui ne devraient pas partager jamais ces affaires-là sur Facebook vont les partager. Des sites qui sont faits avec des traducteurs automatiques où on va prendre n'importe quelle étude avec n'importe quel mot-clé de n'importe quoi. Et malheureusement, ça marche. C'est des informations qui circulent énormément. Alors, même si des fois, dans les médias traditionnels, on se plante, il faut être honnête, on est quand même pas mal meilleur que beaucoup, beaucoup d'autres choses qu'on peut lire. Pour une raison, là, je fais un petit peu de publicité pour les gens que j'aime bien et qui, j'estime, feront bien leur travail, notamment le magazine Québec Science, notamment d'autres journalistes scientifiques à Radio-Canada ou dans le journal Le Soleil, Jean-François Clich. Et qu'est-ce qui différencie finalement toutes ces personnes-là et toutes les gens dont je viens de vous parler des autres choses qu'on peut lire sur la science qui ne sont pas très fiables? C'est une chose qui est très importante, qui s'appelle mettre en perspective. Parce que comme ces études, comme je vous disais tout à l'heure, hein, une étude toute seule, ça ne veut rien dire. De quelle étude est-ce qu'on parle? Par qui elle a été publiée? Pourquoi elle a été publiée? Est-ce que c'est une étude solide? Qu'est-ce que ça change d'avoir le résultat de cette étude-là? Est-ce que ça confirme quelque chose? Est-ce que ça l'infirme? C'est quoi ces limites? À quoi les résultats pourraient servir? Tout ça, c'est ce qu'on fait comme journaliste scientifique, qu'on a dans notre devoir de dire quand on parle des études scientifiques. C'est vraiment important à réaliser, ça. Ce travail de mise en contexte, il est fondamental parce qu'une étude en soi, ça ne veut strictement rien dire. Puis je vais vous en faire la démonstration en 5 minutes pour terminer avec 2 exemples très concrets. Et puis, vous allez voir comment est-ce qu'on peut faire pour quand même, comme journaliste, gagner du temps et comme citoyen éclairé et responsable, essayer de ne pas trop se faire avoir, que ce soit par les médias traditionnels quand ils se trompent ou que ce soit par n'importe quelle autre source d'information. Donc voilà, le fameux « selon une étude », c'est vraiment le bout de phrase qui revient tout le temps. « Selon une étude, les tampons pourraient être cancérigènes ». Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Donc, j'ai fait, et vous voyez que c'est quelque chose, ça a beau être un selon une étude, hein, il a été partagé 9000 fois sur Facebook. Pour un article du Journal de Québec, c'est quand même beaucoup. C'est intéressant, quand on lit ça, d'aller regarder c'est quoi dans le détail cet article. Donc, on nous dit, de nouvelles recherches de l'Université de La Plata d'Argentine affirme que le glyphosate contenu dans les tampons hygiéniques pourrait causer le cancer. Bon, déjà, la première chose, c'est qu'on est content de vérifier que l'Université de La Plata existe. Ce n'est pas toujours le cas. Ça a l'air bête, mais ce n'est pas toujours le cas. Y a des tas d'études qui citent n'importe quoi qui n'existe absolument pas. Là, on nous dit que... On nous parle du glyphosate qui est... alors déjà, vous voyez, un journaliste scientifique sérieux ne citerait pas le Guardian pour citer l'Organisation mondiale de la santé. Il citerait directement l'Organisation mondiale de la santé. Là, on se rend compte ici tout de suite que déjà, on est en train de confondre 2 choses. On est en train de confondre les tampons pourraient être cancérigènes avec le glyphosate pourrait être cancérigène. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Vous vous souvenez l'histoire de variables, et puis vous conviendrez que on n'a pas les mêmes voies d'exposition à un pesticide et des tampons hygiéniques. Dans cet article, quand même, on arrivait à trouver un nom d'un chercheur. Alors, on nous donnait le nom du pédiatre Vaquez Medardo Avila, co-auteur de l'étude, qui avait déclaré que les conclusions de cette étude-là étaient très sérieuses et que c'était vraiment ce qu'ils avaient découvert était vraiment très inquiétant. 85% des tampons sur le marché argentin en contiendraient. C'est quand même inquiétant. Au passage, je ne sais pas parce que ça en contient que c'est forcément cancérigène, évidemment. Donc là, on recherche l'information, on a quelques éléments, on a quelques noms. Donc c'est ça qu'on fait comme journaliste quand on voit ça, qu'on peut faire aussi comme personne. C'est qui les noms qu'on voit là-dedans? Donc on voit le nom du pédiatre, on voit le nom de l'université. Des fois, Google, ça sert à quelque chose. Hein. Ça permet d'aller assez vite naviguer dans les noms des universités pour voir lesquelles sont des vraies, lesquelles sont des pas vraies. Là, on s'aperçoit, alors on va sur un site. Alors, on citait le site d'information argentin Infobae. Donc là, je vais aller voir sur le site. J'ai fait volontairement toute la démarche à des fins pédagogiques. Hein. Donc, je suis allée voir le site Infobae qui cite lui-même une autre agence. On n'est toujours pas rendu à l'université. Là, on est rendu à un journal qui cite un journal qui cite un journal. On peut se rendre comme ça jusqu'à l'université, sauf que quand on arrive à l'université, on ne parle jamais de cette étude-là. Et c'est pour une raison très simple, c'est que cette étude-là, elle n'existe pas. Les chercheurs, ils existent. Il y en a un qui est un spécialiste de l'agriculture. Donc, bon, c'est... Oui, il y a un lien parce qu'on parle de glyphosate, mais a priori, quand on analyse des champs, on n'analyse pas des tampons. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Puis oui, il y a bien un pédiatre qui a travaillé là-dessus, mais on ne peut pas dire que ce soit un pédiatre qui est brillé par la littérature scientifique, dans sa littérature scientifique, puisqu'il a publié en tout et pour tout 3 études, dont je vous passe les détails sur les dates, mais en tout cas, il y en a quelques-unes qui datent là-dedans. Là. Donc, oui, ces personnes-là existent, mais on ne peut pas dire que ce soit des experts dans le domaine dont ils parlent. Et quand on fouille, à force de fouiller, et j'ai vraiment fouillé longtemps pour essayer de retrouver cette source-là, en essayant de faire comme si je n'étais pas capable de décrocher mon téléphone pour appeler les relations médias de l'université pour savoir si c'était vrai ou pas, on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui a pris, je ne vous ferai pas le lien sur YouTube, mais le congrès, alors c'était soi-disant une étude qui avait été présentée dans un congrès scientifique. Le congrès scientifique, on le trouve sur YouTube, c'est absolument hallucinant. Il y a 4 personnes et c'est dans une église. Et c'est comme ça que cette nouvelle... Alors, les chercheurs n'ont jamais fait d'études, ne l'ont jamais publiée. C'est un truc qui date d'il y a quelques années et je continue régulièrement de voir s'ils ont publié quoi que ce soit sur le sujet. Ils n'ont jamais rien publié sur le sujet. Et cette info continue de tourner inlassablement. Elle revient régulièrement. Elle est reprise par toutes sortes de médias. 85% des tampons seraient cancérigènes parce qu'ils contiennent du glyphosate. Vous voyez comment on crée des fausses nouvelles à partir de fausses études. Donc, il y a des fausses études. Il y a aussi des vraies études qui ne valent rien. Il faut être honnête. Et là, je vais vous faire la démonstration de comment est-ce qu'on voit une vraie étude qui ne vaut rien. Une vraie étude donc, que je suis allée chercher sur le journal, par le biais de Web of Science, qui nous parle du fait que des champs magnétiques d'extra-basse fréquence altèrent des cellules cancéreuses. Donc la première chose qu'on peut faire avec Web of Science, cette base de données, c'est d'aller regarder d'abord cette étude, elle a été publiée dans quoi ? Parce que vous avez vu, il y en a des milliers des revues savantes, donc on peut cliquer sur le nom. De là où j'ai souligné en rouge. Et là, on atterrit sur le facteur d'impact. Et là, on s'aperçoit que cette revue-là, elle est dans le facteur d'impact Q4. C'est-à-dire que sur 72 revues qui ont été évaluées pour parler de biophysique en 2015, elle est arrivée 60e. Ce n'est pas terrible. Ça, ce que ça nous dit, c'est que peut-être que si le chercheur avait une étude vraiment super intéressante, il ne l'aurait peut-être pas publiée là. La même chose, on peut se dire, bon, c'est qui ce chercheur-là ? Est-ce qu'il a déjà publié ? Donc, alors, effectivement, on peut le trouver, ce chercheur-là, il existe. Il existe, mais alors, je ne l'ai jamais rencontré personnellement et je serais curieuse. Ça fait des années que je me dis que je veux l'appeler parce qu'il est perdu quelque part, je pense, dans un sous-sol de l'Université McGill, au département de chirurgie plastique. Ne me demandez pas le rapport avec les champs magnétiques basse fréquence. C'est comme ça. Après, on peut aussi aller regarder dans le détail. Puis, bon, il n'a pas publié des tonnes d'études. On nous dit qu'il a travaillé chez Hydro-Québec. Bon, c'est bien. Je vois encore moins de lien avec la chirurgie plastique, mais ce n'est pas grave. On peut aller regarder dans cette étude qu'est-ce qui nous aussi nous fait pas dire à 100% qu'on est sûr que c'est des niaiseries, mais qui nous allume encore nos drapeaux rouges comme journalistes. On peut aller lire le début de l'étude. On peut lire l'introduction. Moi, dans une introduction d'une étude scientifique, il y a des choses qui me chicotent directement. C'est les chercheurs qui citent des études qui datent d'il y a 30 ou 40 ans. C'est bien, mais la science, elle progresse quand même. Donc, quand on cite des vieilles études, ce n'est pas toujours très bon signe. De même que ce n'est pas toujours très bon signe quand on s'auto-cite. Et ce chercheur-là, il est assez bon pour s'auto-citer. Il cite ses vieilles publications et il se cite des citations de 1991. Ça commence à faire long aussi. Ça, c'est un autre indice ça commence à faire beaucoup, là. Une revue mauvaise, un chercheur qui a l'air d'être un peu un nobody, qui est dans un site qui n'est pas vraiment mis de l'avant par l'université McGill. Il faut vraiment fouiller pour arriver à trouver le nom de son laboratoire. Qui publie une étude dans laquelle il fait des vieilles citations ou qui cite lui-même. En temps normal, son cas serait à peu près déjà réglé parce qu'au nombre d'études scientifiques qui se publient, ce n'est pas la peine de s'arrêter à ça. Ça n'a aucun intérêt comme journaliste de rapporter ce genre d'études. Mais il se trouve que cette étude-là, elle a été citée par plein de gens quand il y a eu le débat sur les compteurs intelligents d'Hydro-Québec comme étant l'étude qui montrait que... comme étant le chercheur canadien expert en effet des champs magnétiques qui nous montrait qu'il y avait un danger. Donc, cette étude, elle a été citée par beaucoup de gens, par des partis politiques, par des groupes d'intérêt. Et l'expert, il a été considéré comme expert parce qu'il a publié cette étude. En passant, il n'en a pas publié 50 sur les champs électromagnétiques, il en a publié 2, je crois, dont celle-là qui publie avec une étudiante. Ça aussi, c'est en général pas très bon. La science, en général, ça se fait en équipe. Quand vous avez un chercheur qui publie tout seul autre chose qu'une opinion basée sur une petite revue de littérature, c'est souvent pas très bon signe. Ce qu'on peut faire comme journaliste scientifique pour vérifier la solidité d'une étude, c'est de faire appel à un critique externe. Finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un peu notre propre peer review. On va chercher quelqu'un, un autre chercheur qui n'est pas impliqué dans l'étude, qui est un expert, qui a notre perception et semble un chercheur qui est bien établi dans son domaine, qui sait de quoi il parle, qui a déjà publié beaucoup dans ce domaine-là. Donc, pour chercher qui trouver pour critiquer cette étude-là, on parle des faits des champs électromagnétiques sur des cellules cancéreuses. Il me semble que quelqu'un qui travaille, par exemple, dans les radiothérapies, dans le cancer pourrait être quelqu'un qui a priori a une vague idée de ça fait quoi quand on met un champ électromagnétique sur une cellule cancéreuse. Donc j'ai effectivement trouvé cette personne-là pas très loin, ailleurs au Québec, parce que la science c'est mondial, hein, des fois il faut se creuser pour trouver des experts, mais des fois ils sont tout près. Et là, son avis externe, je ne vais pas vous le lire dans le détail, mais en gros, vous allez voir le genre de reproches qu'on peut faire à une étude. La première chose qu'il me dit, c'est que ses travaux ont été publiés dans une revue de faible impact. Donc, ça confirme effectivement que, définitivement, c'est peut-être pas l'étude du siècle. D'ailleurs, le chercheur ajoute, les importantes lacunes relevées supportent que la littérature, que la revue scientifique utilisée n'ait pas une très bonne réputation. Ça part mal. Là, il est rentré dans le détail de la critique. Donc, il m'explique que la procédure pour l'analyse statistique des résultats n'est pas écrite dans la section méthode. Vous voyez, les scientifiques doivent être précis. S'ils utilisent une analyse statistique pour traiter leurs données, il faut qu'ils expliquent quelles analyses statistiques ils utilisent. Là, il ne l'a pas fait. Il a aussi oublié un peu la valeur P justement pour les figures, les valeurs qui sont rapportées pour plusieurs des figures. Et c'est souvent dans les figures qu'il y a des grosses erreurs d'interprétation dans les études, parce qu'évidemment, c'est là où on voit les données brutes. Il continue en nous disant, comme on n'a pas donné la valeur P, on ne peut absolument pas écrire que les groupes étudiés sont significativement différents. Erreur d'image. Contrairement à ce qui est avancé par les auteurs, la figure 3 supporterait plutôt que le champ magnétique n'a aucun effet. Donc, vous voyez, le chercheur a fait dire à une image quelque chose qu'elle ne voulait absolument pas dire. Ensuite, en tout cas, je vais vous passer tous les détails, mais bref, ça continue comme ça. Vous voyez, sur plusieurs pages où on nous dit que la preuve étant que ça ne fonctionne vraiment pas, lui utilise des champs magnétiques qui sont des millions de fois plus forts que ceux que le chercheur a tenté d'appliquer aux cellules cancéreuses et or, il ne leur arrive rien. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on est capable, comme journaliste, si on fait bien son travail et si on a la possibilité de bien le faire, d'aller très vite trouver quand des études sont mauvaises. Donc, il ne faut pas croire que toutes les études qu'on peut lire sont mauvaises parce qu'elles se contredisent en apparence. Là, je vais vous ramener un peu à ce que je disais au début. Hein. Il faut faire très attention quand on a quelqu'un comme ça qui nous amène des résultats qui ont l'air d'être contraires à toute la littérature scientifique. On appelle ça le syndrome de Galilée. Parce que Galilée, il avait raison contre tout le monde. Et là, il y a plein de chercheurs qui se pensent être Galilée quand ils ont raison contre tout le monde. Mais des Galilées, là, il y en a pas. On n'en croise pas à tous les jours. Là. Et la science telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est plus du tout comme elle était à l'époque de Galilée. Aujourd'hui, quand on a des consensus comme le consensus sur les changements climatiques, ce n'est pas 5-6 chercheurs dans le fin fond de l'Europe qui s'écrivent des missives qui sont transportées par des chevaux. Hein. C'est des millions et des millions d'études, de données qui ont été corroborées, décortiquées dans tous les sens, qui font en sorte qu'on est capable d'atteindre des consensus scientifiques. Donc, pour revenir à la conclusion, est-ce qu'il faut croire aux études scientifiques ? Oui, il faut croire à la science. Oui, il y a beaucoup d'études qui sont très valides. Il faut faire très attention à ne pas leur faire dire ce qu'elles ne veulent pas dire. Ça n'empêche qu'au milieu, on va vous rapporter des études qui n'existent pas. Et ça n'empêche aussi qu'au milieu, on va vous rapporter des études qui sont de très mauvaises études, parce que ça existe, les très mauvaises études. Donc j'espère que ça vous aura aidé un peu à allumer quelques drapeaux rouges quand vous lisez selon une étude dans un journal. Et puis, si vous voulez passer à la période des questions, je vous remercie beaucoup de votre attention.